C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Demain, le Canadien affrontera les Ducks à la maison. Et pour parler de ce match et aussi revenir un peu sur les deux matchs de la fin de semaine, nous retrouvons notre analyste au réseau Cogeco, bien sûr, et aux amateurs de sport, Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Alors, Danny, que retenir de ces deux matchs-là? S'il y a quoi que ce soit à retenir, surtout qu'hier, ben, c'est sûr que c'était à sens unique. Quand tu donnes un but à 25 secondes, ça annonce pas un gros après-midi, hein?
Non. Ben, en fait, ce qui est à retenir, c'est que le Canadien n'est pas dans le contexte actuel. Il n'est pas une équipe qui peut se permettre de faire du hockey de rattrapage. Mm-hmm. Ça, au départ. Donc, ils sont définitivement à la remorque des performances de leur gardien. Ça, c'est une autre évidence. Ils ont besoin de la contribution élargie. Il faut que ça passe plus que le premier trio. Là, c'est le premier trio qui contribue. Quand on n'a pas ça, on n'est pas dans les coups du côté du Canadien. Mm-hmm. L'avantage numérique pourrait te donner une chance en fin de semaine. Les deux matchs en fin de semaine, ça n'a pas été ça. Tu sais, le Canadien joue pour 500. Puis je donnais la statistique un peu plus tôt durant le week-end. Ils allaient accumuler dans les 10 derniers matchs, avaient été capables d'aller chercher des points dans 5 des 6 matchs où ils ont accumulé des points. Ils avaient réussi à marquer un avantage numérique. Ah. Donc, ils avaient 4 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation. À travers les 4 victoires et les 2 défaites en prolongation, 5 fois sur 6, ils avaient marqué un avantage numérique. Donc, pour moi, ça, c'était significatif. Je me disais, si on est capable d'aller chercher un petit peu de ce côté-là chez le Canadien, on va peut-être être dans le coup. Ben, force est d'admettre que ça s'est produit. Là.
Non, vraiment pas, ça s'est pas produit. Est-ce que, selon toi, tu sais, on parle beaucoup de la progression de Slafkovský à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Ouais. Quand tu regardes les jeunes qui, en principe, en tout cas, auront une chance de constituer l'avenir du Canadien, est-ce qu'ils progressent tous ou il y en a qui font du surplace, selon toi?
Ben, écoute, je pense que il faut regarder au départ les ceux qui progressent, c'est ceux qui ont un talent plus évident que les autres, là. Mm-hmm. Un talent plus certain que les autres. Je pense que Goulet est définitivement le joueur le plus important chez le Canadien de Montréal parmi les jeunes, en compagnie de Caulfield. Caulfield, oui. Je pense que tout le monde sait que
c'est une évidence.
C'est une évidence. Mais mettons, on les prend un par un. Je veux dire, Caulfield, son jeu à forces égales s'est beaucoup amélioré. Il est plus patient, il est plus actif quand il n'y a pas rondelle. Il a un meilleur positionnement. Il passe la rondelle, il ne fait pas seulement lancer. Ça, c'est des choses qui fait que sa contribution. D'ailleurs, parmi les joueurs du premier trio,
oui.
C'est celui qui a la meilleure contribution à forces égales. C'est lui qui a le meilleur différentiel entre les buts pour et les buts contre quand il est sur la patinoire. C'est lui qui a le meilleur différentiel des trois.
C'est intéressant.
C'est quand même une statistique qui est assez significative. Alors ça, c'est le premier point. Dans le cas de Slafkovský, il est le meilleur joueur en avantage numérique du Canadien dans les 10 derniers matchs.
Oui.
C'est lui qui a le plus de buts. Il n'a pas le plus de points, mais c'est le meilleur marqueur, je devrais le dire comme ça. Même si moi, je pense que Nick Suzuki demeure le cœur de l'avantage numérique, là, mais ça, oui. c'est un autre dossier. Donc, lui aussi est en progression, une progression évidente. Ensuite de ça, quand tu regardes parmi les autres joueurs, on peut difficilement parler en attaque après ça de joueurs où c'est
non, il n'y en a pas d'autres candidats, c'est ça. C'est plus chez les défenseurs, les autres, de regarder l'évolution du Trouball, de Harris, qui a encaissé. Il était mal positionné. Je voyais pas un geste déloyal de Sammy Blais. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était vraiment une chute qui a précédé la mise en échec. Il s'est retrouvé dans une fâcheuse posture. C'est ta lecture du jeu, Danny?
Oui. Je pense que Sam aurait pu ralentir sa course.
Oui.
Mais il n'aurait pas pu éviter de le frapper. Mais il l'a frappé avec tout son poids, il aurait pu avoir, mettons, 50% de vélocité moins.
Oui.
Moi, je pense que c'est pour ça qu'il a été chassé du match.
Mmh. Et dans le cas de...
Quand il est arrivé, là, peut-être pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, il était le long de la rampe, derrière le filet, avec la rondelle, Jordan Harris. Il a fait sa passe, puis au moment où il a fait sa passe, il a perdu pied. Donc, il donnait face à la rampe. Et c'est comme si sa tête était en bas de la petite ligne là, qui est la bordure de la bande, en haut, juste en bas de la baie vitrée.
Oui.
Et lorsqu'il a été frappé, donc, il était à la hauteur pratiquement des hanches de Samuel.
Oh, oh,
fait
que
Samblay, lui, il l'a frappé avec son corps. Il a frappé la tête de Harris, mais avec son corps.
Oui.
Pas avec son coude dans le visage. Puis c'est pour ça que j'ai été très surpris de l'expulsion. J'ai été très surpris de ça.
Oui, sur le coup, moi aussi. Oui.
Ouais, je me disais, bon, OK, frapper par derrière, donner de la bande, c'est une pénalité, c'est sûr, mais rendu là après, c'est un peu limite. Alors, était assez sévère, mais écoute, c'est un joueur qui n'est pas tellement costaud, Jordan Harris, c'est un gabarit correct, mais sans plus. Ça, c'est pas,
Non, c'est pas un gros joueur.
C'est sûr que c'est pas un gros joueur. C'est un joueur intelligent, il ne se place pas dans ces situations-là de vulnérabilité. C'est parce qu'il a perdu l'équilibre. Fait que, il est en position très vulnérable, puis, comme c'est pas un gros gars, comme je disais. Puis il a été frappé par un gars assez costaud qui est là pour faire ça. Là, sa job, là, mettre de la pression ses défenseurs pis ça. Donc, il va pour ça. Strobel, hier, ça a été probablement son pire match de l'année. Là.
Oui.
En termes de... Il n'y a rien qui fonctionnait. Les pénalités, les décisions avec la rondelle, le marquage un contre un. Il s'est fait brûler par un joueur quatrième trio, là, en passant. Là. Tu sais, je veux dire, Topochenko, là, c'est pas un marchand de vitesse, là. C'est un grand, grand gars, mais c'est pas un marchand de vitesse. Il l'a contourné.
En partant de match, tu fais allusion au premier but d'année, c'est ça?
Au premier but, là, dans quelques secondes qui ont suivi la mise au jeu officielle. Écoute, c'est la première montée de l'équipe adverse en zone adverse. Mais, et Jake Allen a perdu pied. Il a carrément tombé. Donc, il était à plat ventre. Il a même pas essayé de faire l'arrêt. Il était à plat ventre. Il a perdu l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Puis, je sais pas, ses patins.
Ça n'a pas été facile pour Jake hier, non?
Puis après ça, là, c'était la cascade, mon gars, là. C'était effrayant. Donc, moi, écoute, tu sais, le match, il n'y a pas grand chose à retenir de positif. Par contre, je veux partager absolument quelques éléments qui m'apparaissent évidents.
Vas-y.
Le premier, c'est que moi, j'espère que Joshua Roy va demeurer à Montréal, parce que je pense que sa progression, pour qu'il continue de progresser, puis on en parle dans la balado, Martin et moi, bon match, nous, on pense que là, ben, en tout cas, moi, je pense que là, on est rendu à l'étape où lui doit rester à Montréal pour continuer sa progression. Pourquoi je dis ça, c'est que lorsque la rondelle, il génère des choses, il peut déjà avoir une zone de contribution au sein de l'équipe.
Mm-hmm.
Tu sais, des fois, t'envoies un gars en bas, parce que t'sais, il n'est pas fiable dans toutes les situations, et tout ça. Là, écoute, je regardais jouer sans la rondelle, pas de panique, toujours bien placé.
C'est pas un nerveux, Joshua Roy, sur la glace, Danny.
Non, c'est pas un nerveux. Puis il n'est pas nerveux, mais il n'est pas nonchalant.
Non.
Puis ça, c'est ça que j'aime. C'est que sans être un grand patineur, il fait bien les choses qu'il a à faire. Il s'acquitte de ses responsabilités, tout ça. Moi, je pense qu'il peut vraiment aider l'équipe. Puis en plus de ça, là, ça prend de la pression sur les vétérans. Ça prend des jeunes qui viennent mettre de la pression sur les ailiers qui produisent pas.
Mm-hmm.
Parce que là, écoute, t'as Pearson qui joue, t'as Anderson qui joue, puis tu vas avoir Gallagher qui va rentrer dans l'alignement, qui joue, puis qui produisent pas.
Oui.
Alors, ces gars-là, à un moment donné, l'entraîneur, puis ça, c'est l'autre chose que je veux te parler, moi, je pense que Martin Saint-Louis va avoir une opportunité de brasser ses cartes à partir du week-end. À partir des résultats du week-end, il est justifié de prendre des décisions puis de brasser ses cartes. Ça veut dire quoi, brasser ses cartes?
Oui.
Peut-être que Jake Evans est dû pour revenir sur le quatrième trio. Il est moins... L'autre après-midi, il est moins 3, là. Il est moins 3.
Oui.
Anderson est moins 4. Pearson est moins 3. Alors, tu sais, moi, Gignac, là, je le regarde jouer, je me dis, ils ont peut-être une opportunité de lui donner une chance pour voir qu'est-ce qu'il a à offrir. Tu sais... Je comprends, là, des fois, tu veux protéger. Tu veux favoriser...
Ta hiérarchie déjà établie, là.
La hiérarchie, ouais, les vétérans, etc., etc. Mais à un moment donné, même pour les vétérans, on est tous dans le milieu dans lequel on est, tributaires des résultats. À un moment donné, t'as le devoir de produire. Tu peux pas juste éternellement dire, OK. Puis l'autre soir, OK, je travaille, puis c'est correct, ça arrive pas tous les soirs, on comprend, mais tant que tu travailles, on dira rien. Mais l'autre soir, là, après qu'Harris s'est fait assommer, là, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de Anderson.
Ouais.
Honnêtement, là, je m'attendais à avoir un petit peu plus de flamme dans le jeu d'Anderson.
Moins 4. On a eu des flammes sur sa fiche des moins et moins 4.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je peux pas dire que ça a été une menace pour les défenseurs adverses. Fait que moi, tu sais, ça, j'en ai un peu dans ce temps-là. Plus, je te dis pas qu'il fallait qu'ils courent après tout le monde pour leur, tu sais, leur dévisser la tête, là. C'était pas l'objectif. Tu sais, l'objectif, c'est vraiment de dire, bon, mais là, vous tu sais, écoute, Crook, c'est le plus petit défenseur, là, au bord, il a 5 passes hier. Lui, là, c'est une balade au parc. Il y a personne qui a touché, là.
Ouais.
Et nous autres, on a un défenseur qui se fait assommer. Fait que, tu sais, des fois, là, l'équation, là, tu sais, je comprends que c'est accidentel. Tu sais, j'essaye pas de mettre le trouble.
Je comprends ce que tu veux dire.
C'est quoi votre réponse? C'était quoi votre réponse, les gars, vous autres, là?
Mais c'est pas d'hier. Danny, c'est pas d'hier. Ce que tu soulèves là, je sais pas si tu seras d'accord, là, mais à mon humble avis, tu sais, je pense que tu as déjà évoqué les propos de Daniel Brière il y a longtemps, là, pas cette année. C'est qu'il y a plus personne qui a peur de venir jouer à Montréal. Puis c'est pas d'embarquer dans le train de Ryan Reeves qui dit ramener le hockey violent, là. C'est pas l'idée. Mais, tu sais, on n'a jamais eu un gros club. C'est pas parce que t'as un redresseur de tort dans ton équipe. Tu sais, je veux dire, une fois que le mal est fait, si t'en as un qu'un, en tout cas, tu sais, d'avoir une équipe plus grosse, d'avoir une équipe plus physique, plus hargneuse, plus teigne. J'espère que Kent Hughes, Jeff Gorton et Martin Saint-Louis, tous ceux qui bâtissent cette équipe-là, attendront pas d'avoir plein d'actifs. J'espère qu'on les repêche en fonction de ça. Pas juste d'attendre d'aller magasiner sur le marché en faisant des échanges pour aller chercher le fameux papier sablé. J'espère qu'on est conscient de ça en la construisant, l'équipe, parce que ça va en prendre. Ça reste un sport d'intimidation. Puis si tu réagis pas dans ces situations-là, tu vas te faire marcher dessus.
Ben, tu sais, honnêtement, j'adhère pas beaucoup au mot qualificatif d'intimider, là.
Mais c'est un sport d'intimidation, là, OK, encore. Là.
Mais c'est un sport de bagarre territoriale, puis c'est un sport physique. Il n'y a pas de place. Fait que, déjà, d'avoir des petits joueurs, ils doivent être exceptionnels, tes petits joueurs.
Mm-hmm.
Puis, quand t'as des joueurs qui sont plus costauds, ben, ils doivent jouer avec leur force. Si c'est une de leurs qualités, ben il faut que ça paraisse.
Mm-hmm.
Et moi, je pense que tu veux avoir des gros joueurs dans ton équipe parce que ces joueurs-là, en série, normalement, vont t'amener un autre niveau d'intensité puis un autre niveau d'efficacité. Il n'y a pas beaucoup, t'as pas beaucoup de place où tu peux manœuvrer la rondelle, mm-hmm. Mario.
Et tu donnes du courage aux autres aussi qui sont peut-être pas nécessairement équipés pour ça. Je sais que c'est un vieux cliché, mais ça fait partie de la game pareil, là.
Ouais, ben, tu sais, disons qu'il y en a qui sont plus intimidables que d'autres, là.
Oui.
Ça, je te rejoins à 100%, là.
Oui.
Mais c'est un jeu physique, c'est un jeu rapide. Puis, le tempo est très soutenu. Je pense que tu dois avoir l'équilibre entre les deux. Capable de jouer avec la rondelle, de maintenir un tempo de jeu très rapide, de faire des passes rapidement, d'aller en zone adverse, puis capable de générer des choses avec la rondelle. Mais en même temps, quand t'as pas la rondelle, tu veux la revoir, soit capable, faut que tu gagnes tes batailles. Puis faut, si l'adversaire abuse de l'aspect physique, ben toi, tu sois capable de monter ton jeu à ce niveau-là aussi. Puis moi, je trouve que le Canadien a perdu une opportunité, a vraiment raté une opportunité lors du dernier match. Puis ça reste très personnel. Puis là, comme je te disais, là, je suis pas en train de dire c'est œil pour œil puis la vengeance, c'est pas ça, là. Mais là, je pense qu'il y avait une opportunité de monter le niveau de jeu. Puis au lieu de ça, tu sais, je les ai vus frustrés, chialer après l'arbitre. C'est comme une mauvaise journée au bureau là sur l'ensemble de l'œuf. Et je reviens à la case départ. C'est sûr que si tu tires de l'arrière 3-1 après la première période, si ton gardien de but ne garde pas dans un match serré, tu vas avoir de la difficulté à gagner avec l'équipe qu'ils ont sous la main. Ça va être difficile de revenir dans le match. Alors, pour ça... Peut-être que l'entraîneur est dû pour regarder puis donner des opportunités à certains joueurs. Nouveau qui a donné du très très bon hockey.
Oui.
Il y a quand même des combinaisons intéressantes. Mais moi je pense que
un petit brassage de cartes. Ouais.
Ouais. D'inverser Gignac avec Evans pour voir qu'est-ce qu'il a à offrir offensivement.
J'aille pas ça.
n'a pas grand-chose à perdre là.
Ben non. Voyons, on connaît le plafond d'Evans, malheureusement. Tu sais, il a montré son utilité. Là, on l'utilise à toutes les sauces, mais on connaît pas le plafond de l'autre. Fait que ça serait le fun d'avoir une meilleure idée, alors que, tu sais, une meilleure idée de ce que tu vas tenter d'assembler comme équipe l'an prochain, quels seront tes besoins pendant la saison morte, où est-ce que tu t'améliores, et peux-tu jouer un rôle, lui, peux-tu remplir une chaise régulière. En quelques secondes, Danny, combien de matchs pour Morgan Riley pour son double échec à la tête de Ridley Craig, qui a marqué dans un filet désert d'une façon bizarre?
C'est 5 à 6 matchs minimum, là, à cause de la liberté du geste. Écoute, c'est complètement délibéré, inutile, innocent, là. T'sais, je veux dire, il aurait pu aller y parler et dire, on va se revoir, là, n'importe quoi, là. Mais d'agir de la sorte, c'est le genre de choses qu'on veut éliminer dans le sport. Pas juste dans le hockey, dans le sport en général.
Ben voyons, c'est sûr. Ça n'a pas sa place. Ben, gros merci, Danny. On te retrouve demain, bien sûr, au Centre Bell avec Martin en avant-match à compter de 18h30. Merci d'avoir été là pour commencer la semaine.
Ah, ça fait plaisir.
Bye. Danny Dubé qui était là, notre analyste. Et dans quelques instants, place à Guillaume Latendresse. On va revenir sur le Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, c'était bon. C'est pas le meilleur Super Bowl que j'ai vu. J'ai hâte de vous entendre parler un petit peu plus tard. Puis au retour, Guillaume Latendresse.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Bien le bonsoir, Guillaume.
Salut, Mario.
Alors, Guillaume, as-tu veillé tard? As-tu regardé le Super Bowl, toi, hier soir?
Ouais, j'ai regardé le Super Bowl. Ça a été une rencontre avec un début assez lent.
Oui.
Moi, je suis pas un fan fini de foot, puis j'ai pas, mettons, tu sais, j'avais pas les Niners ou les Chiefs comme équipe favorite, tu sais, fait que... Donc, qu'au début, c'était il y avait pas beaucoup de points, puis on réussissait pas à faire des... beaucoup de choses offensivement, mais la fin de match était assez excitante pour être pardonné de
tout ça. Oui, en effet. Par contre, il n'y a pas grand pardon dans le match canadien hier après-midi. Hein? Écoute, c'est mal parti, puis ça s'est jamais vraiment replacé de l'ensemble de la rencontre. Hein?
Ouais, mais tu sais, quand tu donnes un but, je pense, après quoi, 30 secondes, 25. Si tu ne comptes pas, tu sais, 25 secondes à m'emmener ton début de match te fait mal, puis lance un message de ta prestation. Deux matchs en deux jours. Donc ça devient plus difficile pour le Canadien. Mais oui, ça a mal parti, puis ça a juste continué de cette façon-là tout le long. Là.
Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du geste de Morgan Riley? Je reviendrai au Canadien tout à l'heure, mais je voulais te parler de ça peut-être dans d'entrée de jeu. Comment tu penses de match qu'il mérite? T'es-tu tenté de comparer ça à... C'est vrai que la sanction avait été sévère à Dale Hunter, le geste de Dale Hunter sur Pierre Turgeon après un but qui n'était pas un but dans un filet désert. Là, c'était encore plus jaune, plus cheap dans le temps, je pense, de Dale Hunter. Ben, les deux, ça se compare, mais qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que ça mérite?
Ben, moi, personnellement, je trouve pas que ça mérite grand-chose là, au niveau de suspension. Oui, ça en mérite une parce que c'est un coup sournois qui a été fait après que le jeu soit terminé. Là, on s'entend là-dessus. Mais de l'autre côté, je sais que certaines personnes aiment qu'on mette du fun, puis tu sais, mais à un certain moment donné aussi, je pense qu'il faut respecter l'adversaire, puis s'il y a des mauvais perdants, mauvais gagnants. J'ai pas aimé le geste, personnellement. Je trouve que c'est un geste d'arrogance qui peut juste emmener ça. Comment je veux dire, il y a rien d'autre qui peut arriver après une situation comme ça. Là.
Ouais.
Les Leafs, ça va pas bien depuis quelques semaines. On parle quasiment de congédiement. On joue plus 500, je pense, depuis 10-12 matchs, puis tu réussis à aller chercher une victoire, puis tu t'en vas faire un tir frappé comme ça quand c'est un filet désert. Je trouve que c'est de l'arrogance pure, puis c'est chercher le trouble dans un certain point. Mais là, de là, aller jusqu'au commentaire de Ryan Reeves qui
dit
que c'est bon que la violence revienne, puis de manger un coup de poing dans le visage comme ça, comme Morgan Riley l'a fait, peut-être pas. Mais je trouve que ça avait pas sa place non plus éthiquement, là, personnellement.
À moins que il ait ouvert une nouvelle voie, Ridley Craig, et que tout le monde qui marque dans un but dans un filet désert plutôt que d'y aller d'un tir banal, il y a d'un tir signature et que ça vienne une tradition là. À défaut d'avoir des dunks comme dans la NBA, peut-être qu'on pourrait transformer les buts insignifiants en quelque chose de drôle, puis déclencher des bagarres inutiles à toutes les fois.
Oui, nos entraîneurs disaient toujours, quand on avait des pratiques, pas de gardien, lancer comme s'il y avait un gardien dans le filet, respecter, tu sais, pas parce qu'il n'y a pas de gardien que tu pratiques pas tes trous, puis tu n'essaies pas de trouver les endroits clés pour lancer. Essayez pareil, même s'il n'y a pas de gardien. Fait que d'après moi, Riley Craig s'est fait ça longtemps par ses entraîneurs, puis c'est du quoi, je vais le faire à toi.
C'est quoi ton feeling sur Sheldon Keefe?
C'est dur à dire. Moi, je trouve que le noyau des Leafs, c'est dur à manager un petit peu, là. Tu sais, t'as 4-5 personnes qui contrôlent complètement la masse salariale. T'as des gardiens on and off. Au niveau de la défensive, on est ordinaire. Tu sais, puis année après année, on n'arrive pas à faire des transactions pour moi qui font en sorte que on s'améliore parce qu'on est dans le cap salarial. Fait que, tu sais, on est un peu pogné dans tout ça. Sheldon Keefe, pour moi, je pense que c'est un bon entraîneur. Mm-hmm. Il reste qu'à un certain moment donné, comme tout coach, tu sais, il y en a des bons, puis ça fait un temps, puis à un moment donné, ça prend une nouvelle voie, ça prend des tapes ses doigts, puis ça prend un management qui est fait de façon différente. Fait que je pense que c'est un peu ça, là, tu sais, d'essayer des choses puis que ça passe pas avec le coach puis que tu fasses oh ok lui ça passe pas puis il y a d'autres choses qui vont passer des fois c'est peut-être ça, mais tu sais on avait la chance de le faire cette décision là je pense que cet été on a décidé de lui donner une prolongation de contrat. Fait qu'à un certain moment donné je pense qu'on a confiance en lui aussi du côté du management. On veut offrir une constance aux joueurs. Fait que je suis comme entre deux, tu sais, en même temps, qui on mettrait, tu sais, c'est tout le temps ça pour moi, tu sais, qui tu mettrais à sa place, qui ferait vraiment virer à cabane, puis qui changerait tout, puis qui dirait Austin Matthews, tu vas faire ça quand il est rendu à 40 buts, ou, tu sais, ça fait... Fait que, tu sais, il y a une certaine limite en ce que l'entraîneur peut faire dans ce vestiaire-là pour moi.
Je sais pas s'il y a une usure. Aimes-tu l'énergie qu'il dégage pendant les matchs? Tu sais, c'est comme... T'as une bonne équipe. Eux autres, dans le fond, là, j'ai compris, je sais pas si c'est une volonté, mais c'est un jeu dangereux. Ils veulent pas se rompre les os pendant le calendrier régulier. Ça change rien. Tu sais, faut que tu te classes en série. Puis toute leur saison peut se faire oublier juste s'ils avancent en série. Fait que je sais pas si c'est des gars qui, comme, donnent juste le nécessaire, puis qui attendent de sortir des blocs quand ça va compter, parce que c'est pas de mauvaise idée. Tu sais, c'est bien beau de gagner le championnat de la saison régulière, mais somme toute, si tu te fais sortir en première ronde, ça t'a pas donné grand-chose. Si tu le fais au prix de laisser du gaz, de peut-être faire en sorte qu'il y ait des joueurs blessés, parce que t'as... Mais tu sais, tu peux pas changer, tu peux pas tourner une switch on non plus le jour des séries. Fait que je suis bien intrigué. Moi, ça doit être tentant pour les dirigeants. Ils doivent y penser de temps en temps à le remplacer.
Mais là, mais c'est sûr qu'ils pensent, mais à quelque part, tu sais, est-ce qu'ils ont vraiment eu une défensive qui peut leur permettre de gagner, puis est-ce qu'ils ont vraiment des gardiens qui l'ont fait aussi dans les dernières années. T'sais, en ce moment, on se suit sur 4 joueurs à l'offensive, puis c'est là-dessus que tout tourne, tu sais. Fait qu'à un certain moment donné, tu dois évaluer aussi tes prestations, tu dois évaluer ton équipe de la façon qu'elle se défend, de la façon qu'elle joue, puis aller de l'avant avec ça, tu sais. Les Leafs devaient être de la surenchère Zadorov, devait être de la discussion pour Marc-André Fleury, doivent être dans la discussion pour Chris Tanev, ils doivent être toujours l'équipe qui est là pour aller chercher un attaquant de puissance ou dérangeant puis un défenseur pour moi, puis même une discussion gardien. On a besoin quand même de faire quelque chose chez les Leafs de Toronto. Je pense pas qu'on a l'équipe en ce moment pour aller au bout encore, là, tu sais, pour espérer. Fait que,
peut-être une transaction, mais...
Ça va prendre quelque chose pour moi, parce que même si on change d'entraîneur, t'as le même groupe, t'as le même noyau, t'as la même équipe. T'es dans la même position de classement, parce qu'il n'y a pas vraiment de danger pour le reste de la saison. Là. T'sais, les Leafs peuvent coaster à du 500, 550, puis vont rentrer en série facilement. Fait que c'est comme... Il y a quelque chose à faire. Là. Faut que tu réfléchisses comme dirigeant. Là.
Parlant de réfléchir, penses-tu qu'il y en a qui font réfléchir Kent Hughes avec des offres pour aller chercher David Savard, qui domine plusieurs colonnes de statistiques de défenseurs de type défensif? Il y a Pagnotta, un des informateurs de Fourth Period, là, qui ajoute Dallas parmi les équipes intéressées. Tu sais, ça reste probablement des rumeurs, mais on le sait qu'il y a un fond de vérité au fait que des équipes qui veulent gagner peuvent songer à embaucher un David Savard. On verra où il va aboutir, mais si on est prêt à laisser aller un David Savard ou éventuellement Madison, est-ce que ça annonce qu'on va rater les séries à Montréal encore un 3, 4, 5 ans?
C'est une bonne question, mais je pense pas qu'on... 4, 5 ans, non, on s'entend là-dessus, mais pour moi, tout dépend, c'est quoi la transaction? T'sais, mettons que Monahan, tu te retrouves avec 2 choix de première ronde, tu peux faire de quoi d'intéressant avec ça puis un jeune défenseur, tu sais. Mais un David Savard est tellement intéressant pour toutes les équipes qui aspirent à gagner une Coupe Stanley dans un top 4. Tu regardes le Lightning de Tampa Bay quand on est allé chercher comment ça a payé, tu sais, il a été très important. Puis je pense que tout le monde l'a vu, ça, puis ça reste dans la tête, dans l'imaginaire des dirigeants, ça reste là pareil, l'impact qu'un gars comme lui peut avoir dans un vestiaire. Fait que des fois, on va peut-être se retrouver, puisqu'on va avancer vers la date limite, qu'il va peut-être en avoir deux, trois équipes qui vont dire, c'est quoi, moi, je le veux vraiment, puis se retrouver que David Savard, ben, on va avoir un prix qui va être irrésistible, qu'on pourra pas dire non, tu sais. Fait que, ça va être intéressant de voir où on va se retrouver là-dessus. Mais oui, c'est sûr que pour le Canadien, moi, à partir du moment qu'on a montré nos cartes avec Sean Monahan, qu'on a fait la transaction, ben, on se retrouve en position où est-ce qu'on veut se rajeunir, où est-ce qu'on veut aller chercher des atouts pour pouvoir se permettre une transaction. Fait que, tu sais, si David Savard t'amène, je sais pas, un choix de première, un choix de deux, je sais pas qu'est-ce que ça peut être sa valeur, mais avec les choix qu'on a déjà, des jeunes qu'on a, tu peux te retrouver avec une transaction qui peut être assez intéressante pour aller chercher un jeune prospect futur, là, tu sais.
Fait que toi, mais où tu vas chercher l'assurance? C'est à cause de la quantité d'actifs que tu crois que le Canadien va être capable d'éviter la longue séquence arrêtée des séries, comme plusieurs autres équipes, sans toutes les nommer, sont encore dedans dans certains cas, là, dont les Sénateurs d'Ottawa et Buffalo, pour ne nommer que celle-là.
Tu sais, regarde la transaction Elias Lindholm avec Vancouver.
Oui.
On est allé chercher des atouts intéressants. Moi, on est allé chercher un Kuzmenko, si je me trompe pas son nom, là, je vais pas mal le prononcer.
Oui, Kuzmenko.
Puis Kuzmenko, depuis qu'il est là, ça fonctionne très bien à Calgary. Jonathan Huberdeau semble relancer. Tu sais, fait qu'il y a des transactions comme ça d'un jeune joueur qu'on aime dans notre organisation, mais qu'on se dit, je veux gagner la coupe à soir. Là. Moi, c'est là que je veux gagner la coupe. C'est pas dans deux ans, dans trois ans, c'est cette année. C'est ce joueur-là que ça me prend. Fait que je suis prêt à laisser le Kuzmenko, qui va être un très bon joueur dans cinq ans, mais qui m'aide pas en ce moment. Puis c'est là que Kent Hughes se doit de dire, c'est quoi? Ben, parfait. David Savard, tu le veux? Ben, si j'ai un choix de première pour lui, OK, ben, OK, moi, je vais t'offrir ce jeune-là. Ou, peu importe, ça va être quoi la transaction. Faut trouver une façon d'aller chercher des atouts. Moi, je suis un grand fan que là, le Canadien doit se trouver un gars de l'âge. Suzuki, Caulfield, entre 22 à 25 ans, dans une transaction avec un jeune défenseur là, qu'on a, puis des atouts qu'on a au repêchage pour rentrer un jeune de 22-25 qui va faire partie de ton noyau, ton corps, l'an prochain, dans trois ans.
Mais qui veut laisser un gars partir de 22-25 qui est assez bon pour faire partie d'un noyau?
Ben, le gars qui veut gagner la coupe là, tu sais. Parce qu'Elias Lindholm va te faire gagner la coupe cette année comparativement à Kuzmenko, ce qu'il peut le faire.
OK, tu veux dire qu'une équipe bien nantie...
Exact. Ça prend un club qui se dit, je veux gagner là. T'sais?
Puis m'en sacrifier là. Un pour aller chercher le...
Exactement,
c'est ça.
Exactement. Je vais lever le gros trophée cette année, puis je vais regretter dans cinq ans de l'avoir fait, mais ce sera plus moi qui va être là. mais je vais avoir amené une coupe Stanley à ma formation. T'sais? C'est là qu'on est rendu. Les équipes, là, on peut plus être... Puis, le problème du Canadien aussi, là, si je me trompe pas, on a encore deux joueurs qu'on paye une partie du salaire. Donc, il reste rien qu'une place sur les trois aussi pour une transaction qu'on retient du salaire. Ça aussi, ça peut jouer là, sur la valeur des joueurs. Là, t'sais.
Mais certain que ça peut jouer. Raphaël, pas chanceux cette année, une autre blessure. Veux pas, ça va vite le monde du hockey. Là, hein? Une couple de blessures, puis tu peux pas ajouter du data pour négocier un prochain contrat. Je sais qu'il est encore, c'est encore assez jeune, là, son contrat, Raphaël. Ouais. Mais il reste, c'est comme l'an prochain, c'est sa dernière année de son contrat actuel. Mais écoute, il aura juste joué 24 matchs cette année. Là.
Ouais, non, c'est épeurant. Puis je trouve ça triste pour lui. Il a tellement laissé une belle carte de visite l'an passé. Cette année, on le voit aussi, là, tu sais, même si peut-être au niveau statistique, ça fonctionne un peu moins quand il est dans le line-up. À quel point l'équipe montrait qu'elle performe puis amène un dynamisme qui est intéressant pour l'équipe. Mais il reste que, tu sais, moi, je l'ai vécu, cette situation-là, Mario. J'ai fait 25 buts en 55 matchs avec le Wild, puis on m'offrait plus d'argent à court terme ou plus long avec un petit peu moins d'argent. Puis je suis allé pour le court terme en me disant, je vais aller chercher le gros contrat. Puis j'ai jamais réussi à aller chercher avec les blessures et les commotions. Fait. Je suis certain que Raphaël, s'il est capable de jouer une grosse, peu importe il va-tu revenir cette année?
On parle de 4 à 6 semaines, je sais pas. Peut-être qu'il y aura l'occasion de jouer quelques matchs encore, là, mais.
Mettons que tu peux jouer quelques matchs l'année prochaine, un gros début de saison. Ben, s'il réussit à aller chercher un contrat plus à long terme, je pense qu'avec lui, je sécuriserais quelques années, là, comparativement peut-être à un signe de dollars de un peu plus. Là,
c'est un pensée bien, parce que tu peux pas te tenir pour acquis que parce que t'es rendu là, Guillaume, ça va tout aller comme tu veux. Là.
Exact, alors c'est dur. Puis tu sais, quand t'as 22, 23, 24, quand moi ça allait s'arriver, je pensais pas que deux ans après, j'allais plus être capable de jouer au hockey quasiment. Là, tu vois jamais ça, tu es à la fleur de l'âge. Tu te dis, tabarouette, c'est parti, là, je viens d'avoir ma grosse saison. Tu vois juste l'avenir. Là, tu te surprends rapidement. Fait que des fois, le deuxième contrat ou le troisième, là, le milieu de gamme pour un joueur de moyenne, ben tu dois le réfléchir différemment. Ça.
Très certainement. Ben Guillaume, merci beaucoup pour cette chronique pour amorcer la semaine en ce lundi. On se retrouve avec Maxime Andjou un petit peu plus tard cette semaine. Bonne fin de soirée, mon cher.
Bye bye tout le monde.
Bye bye, Guillaume.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Avec Stéphane White pour amorcer la deuxième heure. Salut Steph, comment ça va?
Ça va bien, Mario. Mario, merci beaucoup, toi.
Ben oui, ça va très, très bien.
Week-end.
Oh, monsieur, mais est-ce que ça a été un week-end à la hauteur? C'est quoi ton moment de sport du week-end pour toi, dans l'ensemble?
Ben, il n'y a aucun doute, c'est le match de football. Et puis, la fin. C'était un bon match au complet, mais la fin était assez excitante. Puis, écoute, non, c'est. Il n'y a aucun doute que c'est mon moment du week-end. Et puis, je pense que c'est une bonne affaire qu'il y ait eu le Super Bowl en fin de semaine. Ça a fait diriger l'attention ailleurs que sur le Canadien. Je pense que le Canadien est bien content de ça.
Il n'y a aucun doute que tu as raison en disant ça. Parce que, bon, ça n'a pas été un grand match. En partant, dirais-tu que c'est le goaler qui était faible ou quoi? C'est l'équipe qui n'était pas là?
Ben écoute, Jake a eu un match très difficile, il n'y a aucun doute là-dessus, ça je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Sauf que il a joué comme un gardien de but qui faisait 15 jours qu'il n'avait pas joué.
OK.
Je l'ai senti rouillé depuis le début. A donné pour moi au moins 3 mauvais buts sur 7. Et puis écoute, pour être honnête, il y a eu un match très, très, très difficile. Et puis moi j'aime les côtés de 1 à 10 à chaque match, je lui mets une note et puis c'est la pire note que j'ai donnée à un gardien de but du Canadien cette saison, une note de 3 sur 10. Écoute, c'est difficile pour lui, pas encore une fois, puis je veux pas te choquer là, Mario là, mais le fameux ménage à 3 là, revient hanter encore une fois les gardiens de but du Canadien. Et puis, on l'a dit depuis le début de l'année, ça peut marcher à court terme, mais à long terme, c'est impossible. Tu as tout le temps un ou deux gardiens de but qui vont payer le prix. Et en ce moment, c'est qui paye le prix? Mais c'est Jake Allen et Caden Primo. Caden Primo, là, s'il ne joue pas demain, là, ça va faire 25 jours qu'il n'a pas joué.
Imagine.
25 jours.
Fait que là, tu le renvoies-tu demain après 23 jours ou t'attends qu'il en ait manqué 30 juste pour être sûr qu'il y ait une bonne excuse de nous rapprocher d'un premier choix au total?
Oui, exact. Donc,
Tu dis je veux pas te fâcher, moi, pour vrai, j'ai démissionné sur ce cas-là. Moi, en ce qui me concerne, c'est de l'auto-sabotage depuis le début de l'année. J'ai pas compris le gain encore. Tu penses que la valeur de Jake a augmenté pas mal en fin de semaine?
Malheureusement, non. Mais à sa défense, je dois dire que non, ça écoute, ça, c'est sûr que ça a l'air après ça, mais à sa défense, je pense que moi, il est meilleur que les stats qui montent cette saison. Et puis parce que
je pense que t'as raison.
Si tu regardes des stats, là, aujourd'hui, là, il est 49e au niveau de la moyenne de buts contre dans la Ligue sur 50. Ça, c'est les 50 gardiens de but qui ont joué au moins 18 matchs cette saison. Il y en a 50 et Jake est avant-dernier. Donc, si tu regardes ça comme ça, tu dis « Oh my God, il y a une saison catastrophique. » Et puis, mais si tu regardes les matchs, OK, on oublie celui d'hier, là, ce qui a vraiment été une pourrite. Il avait joué 3 bons matchs avant la pause. Et puis, 3 bons matchs, une victoire, une défaite, une défaite en prolongation. Dans ces 3 matchs-là, il avait été très, très bon contre les Pingouins et contre le Colorado qui avait battu. Donc, moi, je pense qu'il est meilleur que les chiffres l'indiquent. Et si je suis une équipe qui a la recherche de profondeur, et là, on ne parle pas d'un numéro 1, on parle d'un gardien de but de profondeur, Jake Allen sera encore un bon choix pour moi parce qu'avec une équipe qui joue bien devant lui, qui est bien organisé, il est capable de faire les arrêts qu'il a à faire. Et il y a certaines équipes, c'est tout ce que tu lui demandes. À Montréal, écoute, là, on dit que Montembeau a une saison incroyable, pis c'est vrai. Mais si on regarde ses chiffres, il est juste moyen. Mm-hmm. Il est juste très ordinaire. Donc,
faut aller au-delà des stats, t'as raison, Stéphane. Ça, ça raconte pas tout.
Les gardiens de but à Montréal sont meilleurs que leurs stats le montrent.
Et qui tu choisirais demain? Tu sais, moi, honnêtement, j'ai plus vraiment d'opinion là-dessus. Là. C'est comment tu gères, tu sais, je veux dire, rendu là, quand il n'y a plus d'enjeu, là, c'est tu mets qui?
Oui, mais là, écoute, là, on oublie Siri, ça c'est réglé.
Ouais.
Et puis donc, à partir de là, mais là, faut ramener Primo dans le filet. Là. Quand je te dis, ça va faire 25 jours demain, faut que tu le ramènes dans le filet. Donc, ça, pour moi, c'est un no-brainer. On revient avec Montembeau contre les Rangers. Il est rendu là, mais on réévaluera où ce qu'on est rendu. Si Montembeau mérite un deuxième départ en ligne, ou Primo, s'il y a une grosse performance demain, on peut revenir avec. Ou sinon, on peut revenir avec Jake Allen rendu là, rendu à samedi. C'est déjà très loin, ça. Donc, moi, il faut ramener Primo demain et puis espérer trouver une issue pour ce fameux ménage à trois-là, là, d'une façon ou d'une autre.
Il y a un auditeur qui nous écrit, je le salue d'ailleurs, Léopold, qui me demande de te demander à Stéphane son analyse sur la situation de Jake Allen. Il considère que tu es un excellent analyste. Et il demande combien de temps on va faire subir l'humiliation et le supplice à Jake. Je suis mal à l'aise de le regarder de mon écran lorsqu'un jeu ou un lancer se dirige vers lui. Mais là, c'est quoi la solution si c'est pas une transaction? C'est un départ aux deux semaines encore jusqu'à la fin de l'année? Puis on continue comme. Tu sais, y a-t-il une solution ou on va finir comme on a commencé, dans le fond?
Moi, là, on va donner de la glace d'ici au 8 mars, en espérant encore une fois, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de dépisteurs professionnels à chaque match du Canadien, et avec raison, parce que le Canadien se range dans le côté des vendeurs, et en espérant qu'il y ait un dépisteur qui dise à son boss: écoute, il est meilleur que ses stats.
Comme toi, tu as dit à ton boss quand vous avez étudié la candidature d'Antiniemi, par exemple.
Exactement. Il faut que tu aies une projection, dire, regarde, faut pas que tu regardes les stats, faut que tu regardes comment qu'il joue. Et puis, mis à part, bien sûr, le match d'hier, faut être clair.
Oui.
Le match d'hier, Jake a été très bon pour moi. Le monde va dire, ben voyons, il n'est pas très bon, il n'est pas capable de gagner un match depuis le début de la saison. Mais c'est autre chose. Je regarde bien la façon qu'il joue, il est encore capable de faire faire les arrêts qu'il a à faire.
Une couple de bonnes pratiques, puis un bon match, je pense qu'il pourrait jouer un rôle. Puis pas dans un ménage à trois, mais dans un ménage à deux où il est vraiment le second à titrer, puis
il
pourrait se replacer.
Oui. Avec une équipe qui joue d'une façon organisée devant lui, je suis convaincu qu'il peut rendre de bons services. Donc, on va espérer encore, mais ils sont dans des. Sans vouloir excuser les gardiens de but, sont encore une fois, pour on l'a répété 100 fois cet hiver, sont encore dans une situation très difficile.
Et ça a été très difficile pour les Canadiens hier après-midi. 0-2, donc en fin de semaine. L'an passé, ils avaient gagné leurs deux matchs du Super Bowl. Fait qu'on va voir l'an prochain. Mais j'en parlais avec Guillaume un petit peu tout à l'heure par rapport au fait que, tu sais, je sais pas dans quelle mesure. Bon, Kent Hughes n'a pas fermé de porte à personne quant à la possibilité d'échanger. Même un gars comme David Savard, on verra s'il y a une offre intéressante qui l'amène à bouger. Mais si t'es prêt à laisser aller après Monahan d'autres vétérans qui font que, tu sais, tu pourrais être un petit peu plus compétitif. Ça veut dire qu'on est prêt. Est-ce que les gens sont trop optimistes en pensant que le Canadien de retour en série dans une année ou deux, si on continue d'envoyer des vétérans jouer ailleurs?
Moi, je pense que c'est d'être très, très optimiste, peut-être trop. Parce que pour moi, en ce moment, dans l'alignement de 22 joueurs du Canadien, j'en ai 9 où ce que c'est des valeurs sûres. Et j'inclus Kirby Dach. Donc, avec Kirby Dach, j'ai seulement 9 joueurs sur ma liste à moi qui c'est des valeurs sûres. Ça veut dire que si tu as une équipe compétitive d'ici 2 ans, ben, il te reste 13 joueurs à ajouter à cet alignement-là.
Puis 9, c'est peut-être généreux, Steph.
C'est du monde.
Mais 9, c'est généreux. Je veux dire, OK, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, ça, c'est assez évident. Là, tu mets Goulet là-dedans. On a 4. C'est qui tes autres, mettons?
Après ça, j'ai Dak.
Ouais, OK. Dak.
J'ai New York.
OK.
J'ai Matheson.
OK, tu le gardes?
Oui, et juste Trouble.
OK.
Ça en fait 8. et j'ai Montembeault. Montembeault, je ne sais pas comme numéro 1 ou numéro 2, mais il est là. Donc, moi, c'est mes 9. C'est mes 9 que je me dis c'est une valeur sûre pour dans 2 ans. Dans 2 ans, ces 9-là, en principe, devraient être encore là. Les autres, c'est toutes des points d'interrogation. C'est tous des gars qu'on pourrait se départir. Et puis, mais tout ça pour dire qu'il reste quand même 13 spots à remplir d'ici 2 ans. Ça, c'est du monde, ça. Pas tes trous, ces gars-là. Donc, faut être patient. Le monde, Mario, là, on commence déjà à manquer un petit peu d'impatience. Peut-être
de patience, oui, oui.
Mais c'est seulement 2 ans de reconstruction. Ça peut prendre 4, 5, 6 ans de reconstruction. Parlez-en bien des clubs qu'on connaît.
Ben, je te rejoins complètement. C'est pour ça que quand j'entends du monde dire comme si c'était un fait acquis où on va être de retour en série dans 2 ans, j'ai pas l'aise. Parce que si t'en fais une vraie, comme parce que tu sais, je trouve que la comparaison avec les Rangers de régler ça vite, elle tient de moins en moins la route, à mon avis, Stéphane.
Ben moi, elle a jamais tenu la route.
Elle a jamais tenu bien fort.
Elle a jamais tenu parce que t'es un Panarin qui, lui, voulait jouer à nulle part d'autre qu'à New York. T'as un Adam Fox qui voulait jouer à nulle part d'autre qu'à New York. Et puis ça, là, écoute, là, et un Cher Stockton qui est arrivé un petit peu d'une façon imprévue, qui est devenu un des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Et tout ça, là, écoute, on n'a pas ça en moyen, là, tout ce que je viens de nommer. Là.
Ouais. À ce stade-ci, là, je ne sais pas s'il y a un règlement qui permet, comme un auditeur me le demande, Jean-François, il demande, est-ce que le CH peut dire Primo retourne à Laval pour une remise en forme sans passer par le ballottage pour faire en sorte qu'il voit un peu d'action avant de revenir dans un match de la Ligue nationale? C'est quoi, 23 jours sans jouer un match? Garde, ça arrive, là, des fois, des gars reviennent d'une blessure puis ils vont pas nécessairement dans la Ligue américaine pour se remettre en condition, mais sais-tu s'il y a une petite ouverture de ce côté-là?
Bah, c'est une très bonne question, puis c'est une très bonne idée. Puis je pense que oui, il y a quelque chose qui pourrait se faire à ce niveau-là. Je connais pas le règlement par cœur, mais je crois
on va
que
vérifier.
Ouais, mais c'est une très bonne question et une très bonne idée. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'aller faire passer parce qu'en fin de semaine prochaine, le Rocket joue 3 matchs en 3 jours. Donc ça serait facile de donner deux départs faciles.
Parce que je vois mal, je sais pas, mais il me semble que j'ai tendance à croire qu'ils vont venir avec Samuel Montembeault demain. C'est un match à domicile. Je veux dire, faut quand même que t'en donnes un petit peu pour ton argent aux gens qui continuent de venir au Centre Bell acheter des billets. Ça se discute-tu, ça, dans le staff hockey? Tu sais, comme dans le temps de Carey, étiez-vous conscient de ça? Ou, tu sais, c'est vous autres, c'était gérer le hockey, c'était évident que c'était pas une grosse...
On gérait le hockey, et puis, on voulait gagner les games qu'on devait gagner. Puis les games à domicile, c'est des games que tu dois gagner. Donc, si on avait le choix entre deux matchs, comme cette semaine, le Canadien joue à maison mardi et à New York jeudi, mais c'est certain que Carey aurait eu le match à domicile parce que c'est les matchs que tu dois gagner, tes matchs à domicile. Donc oui, on en parlait de ça. Mais ça n'a pas rapport avec « on veut que les gens voient Carey ». Parce qu'ils payent. On disait qu'il fallait gagner les games qu'il faut gagner. Puis ça, les games, les parties à domicile, tu dois gagner ces games-là. C'est pour ça qu'on faisait jouer Carey pratiquement tous les matchs locaux.
Alors, un match sur la route cette semaine, celui de jeudi à New York et demain, les Ducks à la maison. Ben, Stéphane, un bon début de semaine, bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. On se reparle très bientôt.
Excellent. Bonne soirée. Merci.
Bye-bye, Steph. Et on revient dans un instant avec Bruno Eppel.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
Bonsoir Bruno.
Salut Mario.
Alors, est-ce que tu classes ça où comme Super Bowl? Là? C'est-tu un des bons, pas pire, le meilleur que tu as jamais vu, le pire? Comment tu classes ça?
Mario, s'il te plaît, c'est impossible que ce soit dans les pires, c'est de loin dans les meilleurs, s'il te plaît! Hey, le premier en surtemps, puis au moins on a la chance d'avoir les deux équipes, les deux corps s'exécuter, c'était de toute beauté, honnêtement, de voir ce Super Bowl-là, puis je te dirais, on était content pour les Chiefs, mais on n'avait pas le choix d'être un peu triste pour les Niners,
oui.
Tellement les deux équipes s'étaient livrées un duel serré, épique.
Vraiment.
Ah, regarde, vraiment, toi, j'ai entendu dire que tu avais quelques personnes chez toi, et je peux te dire que j'ai entendu dire aussi qu'il n'y avait pas grand monde. qui parlait au moment de la prolongation, puis tout le monde avait les yeux rivés sur le téléviseur. Là. C'est fou, là.
Non, c'est sûr que toute notre attention était concentrée sur le match à ce moment-là, la prolongation. Deuxième match seulement de l'histoire en prolongation. Puis comme tu as si bien dit, avec le changement du règlement où tu as le droit de réplique si tu n'as pas marqué de toucher. Et est-ce que les 49ers ont perdu par leur faute? Comment tu vois ça? T'sais, oui, on aimerait bien ça. Puis parce que, tu sais, est-ce que c'est le converti raté qui découle finalement?
Ah, c'est tellement un bon point. Moi, c'est la première chose quand tu commençais ta question. Je dis, le converti raté a changé complètement la dynamique de la fin du match. On va se le dire. Là. Si on manque pas notre. On ne sait pas bloquer ce converti-là, là, soudainement, on mène par quatre. Là, au lieu d'y aller pour le placement, c'est peu importe ce qui arrive, ce qui est arrivé sur la séquence où Mahomes et les Chiefs ont créé l'égalité là au quatrième quart, il n'y aurait pas eu le choix d'y aller sur cet essai-là au lieu d'y aller pour le botté.
C'est ça.
Fait que ça aurait complètement changé la dynamique. Ce botté bloqué-là a changé beaucoup de choses. Évidemment, le botté de dégagement qui a touché au talon d'un joueur qui est en train de s'exécuter pour effectuer un bloc du côté des Niners. Et on a vu après ça Mahomes lancer à Valdez-Scantling puis Marcon Chui. C'est deux jeux qui ont changé l'issue du match. C'est deux jeux qui ont changé l'issue du match à l'avantage des Chiefs. Mais en bout de ligne, quand c'est arrivé le temps de faire des jeux, qui a fait les jeux? C'est Patrick Mahomes, c'est Travis Kelce, tant qu'à moi, dans cette séquence victorieuse qui a été absolument phénoménale. Là. Mais tu as raison de le dire. Ces deux jeux-là, et particulièrement le botté bloqué sur l'extra point, pour moi, a changé l'issue du match.
Et le botteur va s'en souvenir longtemps parce que bon, il y a eu le botté bloqué, mais je pense qu'il l'a manqué un petit peu parce qu'il était bas son botté. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Je sais pas ce que tu en as pensé.
Ouais, il était bas, puis tu sais, oui, bravo au Chief pour l'avoir bloqué, mais plus le botté est bas, évidemment, plus facile à botter, à bloquer. Puis l'autre chose, faut pas oublier, pendant qu'on nous, du côté des Niners, on manque un botté d'après toucher, ben on a Butker de l'autre côté qui en réalise un de 57 verges, qui était pas beaucoup plus haut, faut se le dire, hein?
Oui.
Je sais pas si tu te rappelles, mais le botté de 57 verges de Butker, il était très bas, là. C'était quasiment... Écoute, une passe, une rapide d'un lanceur, là. Ça n'a pas monté, ça a passé entre les deux poteaux pour 57 verges et ça a donné 3 points aux Chiefs. Ça aussi, tu sais, il y a un paquet de choses, dans le fond, sur les unités spéciales qui sont venues impacter ce match-là, qui a été, tant qu'à moi, un match qui. C'est plate à dire, là. Les Niners, aujourd'hui, et Kyle Shanahan, ont continué à avoir à dire qu'il n'est pas capable de gagner de gros matchs. Mais c'est un match qui aurait facilement pu gagner s'il y avait eu un peu de chance de leur côté dans ces trois moments-là.
Est-ce qu'il y a des athlètes dans ça de qui on attendait de grandes performances qui, à ton avis, n'ont pas joué le match attendu, même chez les gagnants? Mais je pense aux 49ers surtout.
Oui. Ben, chez les 49ers, c'est évident que le premier nom qui me vient en tête, c'est Deebo Samuel. On avait tellement parlé de lui dans les deux semaines... Qui arrivait au match, l'impact qu'il avait, même lorsqu'il n'avait pas le ballon dans les mains, mais surtout lorsqu'il l'avait. Puis on n'a pas entendu ou parlé de Deebo Samuel durant tout le match. C'est Christian McCaffrey a connu un solide match. Il a du 80 verges au sol, 80 verges par la voie des airs, 160 verges. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait son travail. Il y a seulement un jeu explosif du côté de Christian McCaffrey. Mais Deebo Samuel, tant qu'à moi, n'a pas été soit sollicité ou n'a pas livré à la hauteur, mais en bout de ligne, si tu veux gagner un match du Super Bowl, ben à un certain moment donné, tes joueurs étoiles doivent faire la différence. Puis Christian McCaffrey a fait un semblant de différence, il a connu un bon match. Deebo Samuel, lui, tant qu'à moi, est invisible. Je te dirais que c'est le premier nom qui me vient en tête.
Il avait été blessé, lui, en début de série. Hein? Il est revenu au jeu, cependant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui l'ennuyait. Des fois, il y a des histoires qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Brock Purdy? Il n'y a pas grand-chose à se reprocher.
Brock Purdy aurait mérité le match, tant qu'à moi. Sa performance, quart de deuxième année, de jouer un match comme il a joué là, face à la une des meilleures défenses de la NFL. Il n'a pas vraiment commis d'erreur majeure. La seule chose que je vais dire sur Brock Purdy, c'est qu'il faisait face à une défense qui mettait beaucoup de pression. Et quand on regarde les statistiques et tout ce qui s'est passé, surtout en fin de match, on a juste à penser, la première chose qui nous vient en tête, le fameux jeu où il a été obligé de lancer une passe incomplète. McDuffie s'en venait directement dans son visage. Un jeu défensif, un appel de jeu parfait où on a amené un blitz. McDuffie a rabattu la passe. Ça a forcé, ça a donné une chance par la suite aux Chiefs de s'exécuter. Ça a forcé le placement, si on veut, parce que si on complète cette passe-là du côté des Niners, après ça, on est capable d'écouler le temps. Et ce jeu-là a fait la différence. Fait que Brock Purdy a fait très bien, mais la pression, quand même, on l'a vu à certains moments, et oui, le match avancé est venu le déranger.
Ah, les défensives ont joué tout un match hier. Les deux bords, là, c'était difficile pour les offensives,
ouais,
là, de se démarquer.
Oui, puis Andy Reid a été le premier à le dire lorsqu'il finissait tout le monde. Il a parlé, puis là, on va parler de Kelsey, j'imagine, à un certain moment donné dans notre intervention, mais il a parlé de la défense en premier lieu. Il dit, hey, qu'est-ce que c'est? Bravo à notre défense. Avant même de féliciter n'importe qui, Mahomes, Kelsey, Hardman, qui a marqué le toucher gagnant, il a parlé de la défense, puis c'est la réalité. Parce que on a tendance à l'oublier, mais cette défense-là, durant toute la saison, a sauvé les meubles. Dans les éliminatoires, elle a accordé en moyenne moins de 16 points par match. Et quand c'est venu le temps de sceller l'issue du match, les séquences importantes au quatrième quart, puis en prolongation, ben elle a fermé les livres, elle a fait les gros jeux, puis c'est vraiment une victoire signée, oui, Patrick Mahomes, mais beaucoup la défense des Chiefs.
Travis Kelce a pas fait partie tant que ça du plan de match. Il en a fait partie dans des blocs parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui sont très, très utiles et indispensables à une équipe. Mais c'était pas le gars sélectionné toujours pour compléter le jeu. D'ailleurs, c'est un quasi inconnu qui a signé le toucher gagnant. Hein?
Oui, ben écoute, quand tu regardes ça, Kelce, nous, on arrivait à la mi-temps puis on regardait ça, une cible, une réception pour une verge. Puis tu te rappelles, là, il a pété une coche à Andy Reid, mais pas à peu près à la suite d'un échappé, alors que lui aurait dû être sur le terrain, Kelce. Puis c'est Noah Gray, son remplaçant, qui était là. Puis lui, était sur les lignes de côté. Puis Noah Gray, je pense qu'il a semblé manquer son bloc. Et on a eu un échappé revirement dans la zone payante, près de la zone de but. Puis il a pété une coche à Andy Reid. C'est drôle à dire, mais nous, est-ce qu'on est arrivé à la mi-temps? Puis il avait pas raison de faire ça, mais en même temps, il n'était pas assez sollicité, il n'était pas assez impliqué. Tu arrives au Super Bowl, là, il faut que tes joueurs clés soient sur le terrain et sollicités, puis visés, puis ciblés pour te faire gagner. C'est avec eux autres que tu t'es rendu là, puis c'est avec eux autres que tu vas gagner.
Mais ça arrive souvent, même Kito, là, bord, ça a été long avant qu'il y ait le ballon.
Ben oui.
Ça arrive souvent dans tous les clubs, je sais pas c'est quoi le puis année après année, pas juste au Super Bowl, que on tarde à faire entrer dans le match le gros gars, ou je sais pas si c'est...
Ouais. Hein? C'est pas des fois, j'ai l'impression que les entraîneurs se disent, ah, on va tenter de mystifier l'adversaire, ou, tu sais, on appelle ça avoir le nez trop proche de la, quand t'es trop proche de la forêt, là, trop proche de l'arbre, tu vas pas en forêt, là, c'est un peu ça, là, mais.
Oui.
C'est un peu l'identité de ce que j'ai vu. Puis Travis Kelce en deuxième demi, nous, à la mi-temps, on a dit, il faut absolument, si on veut gagner le Super Bowl, il faut que Kelce soit impliqué. À la demi, il y avait une réception pour une verge, une fois ciblée. Il a fini le match avec 9, si je ne me trompe pas, 9 réceptions, 10 fois ciblées pour 99 verges. On s'entend qu'il a fait partie de l'équation puis de la solution, là.
Clairement.
On s'est mis à viser plus. On s'est mis à tenter des jeux qu'on n'avait peut-être pas tentés. On s'est mis à se dire, regarde, je comprends, là, qu'on l'a à l'œil du côté des Niners, mais là, Kinlaw est blessé. Ben, regarde, on va commencer à... Kinlaw, c'est un secondaire de ligne du côté des Niners qui est sorti du match. Puis on s'est mis à utiliser un peu plus Kelce. Et il a fait des gros, gros jeux au quatrième quart. En fait, il a fait le gros jeu qui a amené les Chiefs à être capables d'y aller du placement égalisateur. Puis c'est lui qui a fait le gros jeu pour amener les Chiefs à l'intérieur en surtemps avant le toucher de Mecole Hardman. Tu sais, c'est lui qui a eu le ballon. Il a fait deux énormes jeux, tu vois, avec Kelce. C'était pas normal qu'on l'ait pas impliqué en première demi. On l'a fait en deuxième demi, en prolongation, puis pour moi, ça a fait la différence.
Bruno, on va s'arrêter le temps de quelques messages, puis on va revenir. On parle de dynastie maintenant pour qualifier les Chiefs de Kansas City. Alors, où est la place des Chiefs et de Patrick Mahomes dans l'histoire de la NFL? Une histoire qu'ils n'ont pas fini d'écrire. On revient avec Bruno après ceci.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
Voici Mario Langlois.
Avant de classer qui est la dynastie ou à qui se compare, parce que les Chiefs sont en train de réaliser des questions du public à la messagerie texte au 98-985. Un auditeur te demande, Bruno, de parler justement du dernier jeu du match. On y a fait allusion rapidement à Hardman. Est-ce que c'est un jeu que Reed gardait dans sa manche, il n'avait pas fait durant le match? Les entraîneurs font-ils cela pour garder un jeu pour les grands moments d'un match? On appelle ça le Andy Reid Special, ce jeu-là.
Oui, puis quand on a demandé à Andy Reid de décrire ce match-là, il a dit, bon, c'est un hot dog avec de la moutarde, puis de la relish, puis un peu de ketchup par-dessus. Dans le sens où il avait gardé ce jeu-là, c'était définitif pour un moment important du match. Et de lancer, c'est tellement typique d'Andy Reid. Tu sais, McCall-Hanman, on avait-tu mentionné son nom dans le match?
Non.
On l'avait pas vu. Et soudainement, c'est lui qui se retrouve seul, oublié par la défense des Niners, alors que t'as des joueurs comme Kelsey, t'as des joueurs comme Rice qui sont sur le terrain en train de faire des tracés à d'autres endroits puis qui attirent l'attention, puis tout le monde soudainement focus sur eux, puis lui se retrouve un peu seul. Ça, c'est tellement à l'image de Andy Reid. Sur la même séquence, McKinnon a eu le ballon aussi à un certain moment donné sur un jeu très important pour aller chercher un premier jeu. Puis moi puis Mathieu Pron, on s'est regardé et on dit « Ah, regarde! » Soudainement, lui, on vient de l'impliquer à un moment important, on l'avait pas vu venir. C'est ça, Andy Reid, c'est qu'il y a tellement de jeux, de formations, puis il garde des fois des petits jeux dans sa poche pour un moment important, puis il le fait juste au bon moment, c'est forcé d'admettre, là.
Ben, je comprends donc. Je veux juste revenir rapidement sur l'altercation ou la discussion entre Travis Kelce et son entraîneur Andy Reid. J'invente pas ça. Il y a quelques semaines, Andy Reid a comme, entre guillemets, bumpé Travis Kelce ses lignes de côté. Tu te souviens-tu de cette image-là?
Ben oui, on s'en rappelle.
C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on le mette. J'étais surpris qu'on ramène pas cette séquence-là hier. Comme quoi, donc, il y a du vrai dans ce que Mahomes dit après le match, qu'eux autres, tu sais, regarde, ils sont intenses, c'est comme ça, parce que, moi, j'ai vu Reid, justement, là, un peu bousculer Travis Kelce il y a quelques semaines.
Ben, tellement. Puis, ben, Andy Reid, lorsqu'on lui a posé la question après le match, c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit, regarde, il dit, ce qu'il a fait là, il dit, honnêtement, il est en train de me dire, mais moi, sur le terrain, pour des moments de même, je vais scorer. Il dit, moi, il dit, j'adore ça, puis c'est ce que j'aime de ce joueur-là. Puis, il dit, moi, je lui en ai donné aussi, là. Il dit, là, c'est juste que là, il m'a pogné un peu sneaky, puis il m'a pogné hors ballon. Fait que j'ai pas été capable de me solidifier. C'était tellement drôle de l'entendre. Il a vraiment banalisé le moment. Tu sais, alors que les médias ont tenté de l'amplifier, lui, il l'a banalisé en disant,
vraiment,
c'est ça notre relation, moi, puis Kelce. On est ensemble depuis tellement d'années. C'est un joueur et un entraîneur, mais c'est surtout deux chums qui se connaissent depuis plusieurs années, puis qui veulent gagner, puis qui savent gagner ensemble. Puis Kelce, lorsqu'on lui a posé la question, c'est ce qu'il a dit, « Gars, je dois tout à Andy Reid. Toute ma carrière, je lui dois. » Il dit, « Je l'adore, puis je voulais juste dire que je voulais être là pour lui, pour le faire gagner. »
Tout simplement. Il a tellement l'air d'un bon gars, puis Laurent Duvernay-Tardif nous en a parlé à plusieurs reprises, en tout cas dans des entrevues que j'ai eues avec. Il y a énormément d'admiration pour Andy Reid, puis tu sais, c'est un gars humble, là. Il amène pas l'attention sur lui. T'as vu les réponses, comment c'est court, lui, là. Lui, t'es content. Il revient l'an prochain, c'est confirmé. Il a du fun. Ouais. Il a l'air d'avoir du fun.
Hey, c'est drôle, là, mais il confirme qu'il revient. Kelce, sur le podium, a dit, nous autres, là, c'est pas la deuxième qui nous motivait. C'est d'être les premiers à en avoir trois. Tu sais, fait que là, attention aux Chiefs l'an prochain, parce que ils ont la plus jeune défense de la NFL, qui était une des meilleures, qui vient de gagner le Super Bowl, qui va pratiquement tous revenir. Ils vont tous revenir, parce que quand t'es jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gars sont pas tellement bien payés. Regarde, on a une belle équipe. Là. Patrick Mahomes va être là, Kelce revient.
Il va avoir plus d'argent.
Que ce soit pas possible, oui.
Ils vont avoir plus d'argent. Je pense que le contrat de Mahomes va prendre moins de place sous le plafond. Ouais. Alors, ça va leur donner l'occasion peut-être de même s'améliorer certaines positions, Bruno.
En tout cas, Kelce a lancé un message à toute son équipe sur le podium en disant, regarde, c'est bien beau deux, là, mais ça, il y en a d'autres qui l'ont fait. Nous, ce qu'on veut, c'est trois, puis c'est de ça qu'on parlait depuis le début. Donc, attention aux Chiefs pour l'an prochain.
Là, on parle d'une dynastie. Ils sont à 3 en 5 ans, 3 titres incroyable. En 5 ans, 2 de suite. Les Steelers, entre 72 et 79, n'ont gagné 4 en 6. Il y a la dynastie sur une plus longue période, mais une période de domination là qu'on établit de 2001 à 2018. C'est sûr qu'il y a eu des petits creux de vague ici et là pour les Patriots, mais Alors, les Chiefs, là, en ce moment, c'est sûr que là, dynastie, c'est le bon mot, là. 3-3 en 5, c'est le calibre de dynastie, là, Bruno, là.
Définitivement. Puisqu'on est tellement chanceux, nous, en tant que partisans, d'avoir succédé, d'avoir vu les Patriots finir un peu leur dynastie avec Tom Brady. On a eu un petit moment avec les Bucks de Tom Brady pour nous garder en appétit. Puis là, soudainement, on a la dynastie des Patriots qui nous apparaît en pleine face. Pas des Patriots, mais des Chiefs qui nous apparaît en plein visage. Mahomes, là, ça fait juste 6 saisons qu'il est partant dans la NFL. Il y a déjà 3 Super Bowls.
Regarde tout ce qu'il a battu cette année, Bruno, tous les clubs qu'il a battu sur la route cette année, là.
Non, et 3, et sur, puis en plus, à toutes les fois, on arrivait sur la route et on disait qu'elle allait perdre, underdog, pour les Chiefs. Il n'y a pas une fois où on n'a pas sorti de là avec des victoires. Dans les 2 dernières saisons, Patrick Mahomes, 7 victoires, aucune défaite en éliminatoire, 11 passes de toucher, aucune une interception, celle qu'il a lancée. Écoute, il n'y a rien qui nous fait dire que c'est loin d'être fini.
Et on dit, ben vraiment, puis on dit que les Chiefs, s'il n'y a pas de blessure, on dit que les Chiefs également sont l'équipe qui, pendant là une grosse portion du calendrier, ont eu le moins de jours de repos entre des matchs, sont allés en Allemagne, en tout cas. Je t'amène sur autre chose maintenant, parce que le Super Bowl, c'est aussi le show de la mi-temps, puis j'ai su que tu n'arrêtais pas de regarder en boucle le show de Usher, donc tu as vraiment trippé.
Écoute bien, là, on s'ennuyait de Jennifer Lopez.
Ah oui?
Hein? On s'ennuyait de ça un peu, puis de Chucky Raw, là, parce que moi, la minute qu'il s'est mis en bédaine, c'est là qu'il m'a perdu. Je vais te le dire, là, quand il s'est mis en bédaine, là, c'est pas un show de la mi-temps qui va passer à l'histoire au départ, mais là, quand il s'est mis en bédaine, en gros, soir, moi, j'ai dit, bon, c'est terminé. Non, Usher, merci beaucoup, il t'a eu beaucoup de beaux succès, mais là, non. Pas Bédane, mon Mario, s'il te plaît.
Il a fait la même affaire qu'Adam Levine avait faite, tu te rappelles?
Ouais, exact.
Avec ses tatous. Ben oui, moi aussi, il m'avait perdu. Ben écoute, moi j'ai fait du ménage pendant la mi-temps hier. J'écoutais la musique. On va écouter un petit extrait d'ailleurs. Un petit extrait. Question de te faire vivre des moments magiques que tu as vécu hier.
Ah oui, magique.
Il y en a qui ont apprécié quand même.
Ben oui, c'est sûr.
Écoute, il était à 550% de plus d'auditions sur Spotify. Ses billets ont augmenté de 40% de prix. Bref, en tout cas, il y a un public pour lui, puis ça a l'air que ça a marché. Je voyais des critiques très, très, très élogieuses, mais il y en a, j'imagine, qui étaient déjà gagnés à sa cause avant même la mi-temps.
Ben, écoute, je vais y aller avec en disant c'était un très beau spectacle, mais moi, personnellement, ça m'a rien fait.
C'est quand la dernière fois que tu t'es mis en bédaine en public, toi, d'une parade de la Coupe Grey, Bruno, non?
J'essaie de me mettre en bédaine le moins souvent possible en public.
Ben,
dans les tactos.
Ben, j'espère que
comment qu'on est rendu à 50. On se met moins bédaine que là.
Oh, c'est sûr. J'espère que tu pourras le faire sur une belle plage pendant tes vacances, Bruno. Tu as travaillé fort cette dernière semaine. Repose-toi bien. On va s'en parler dans quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir accompagnés jusqu'au Super Bowl, mon ami.
All right, mon Mario.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.